TimeFoot. TimeFoot. Résultats, news, agenda et info off de la plus grande compétition africaine. Tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, jour de week-end. Ce soir, c'est le week-end pour certains et pour d'autres, non. En ce vendredi 4 février 2021, au menu de cette émission spéciale Coupe d'Afrique des Nations TimeFoot, on parlera de quoi ? De la CAN. Et oui, grosse désillusion. Camerounaise et Salah qui retrouve donc son coéquipier Sadio Mané pour cette finale de cette édition 2021. L'Espagne, le Real montre encore ses faiblesses à l'approche de ce match face au Paris Saint-Germain de Neymar ou encore Messi. Et oui, et qui recevront ce Real Madrid pour le 8e de finale aller dans leur entre qu'est le Parc des Princes, excusez-moi. Et la Ligue 1 Uber Eats avec l'Olympique de Marseille qui reçoit le SCO d'Angers. Voilà, le numéro du standard, comme à son habitude, Yanis, notre réalisateur, se fera un plaisir de vous faire passer à l'antenne, nos 01 53 48 3000. Allez, c'est parti, go go Time Sport.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Alors avant d'enchaîner avec le sujet de nos socios, justement, on va dire bonsoir à notre équipe avec Abdel qui est avec nous ce soir. Comment ça va Abdel ?
Ça va très bien Bilal, bonsoir à toutes et à tous, très content d'être là comme d'habitude.
On aura Alisson, sans oublier le coach Tolé, mais il est avec nous ce soir, c'est Achille. Comment ça va Achille ?
Ça va, un peu, oui. C'est comme un vendredi.
Un peu groggy.
Un peu groggy,
c'est ça, c'est
un
le mot.
Un peu groggy, mais bon, c'est le week-end, donc on est content d'être là. Et d'ailleurs, j'ai pensé
allez, vas-y.
En particulier à toutes les personnes qui tentent de sauver le petit Ryan.
Eh oui, Ryan, au Maroc.
Voilà, au Maroc.
C'est bien ça.
On a une pensée aux autorités, à la famille, et puis on les oublie pas.
C'est ça, les secours ont bon espoir justement d'arriver à extraire ce petit garçon de 5 ans. Il était tombé mardi quand même dans un puits de 32 mètres de profondeur, Achille, on fait bien d'en parler. Ryan qui était donc coincé, on l'espère, et tous nos pensées vont vers la famille de Ryan, vers tous les amis du village, mais aussi le peuple marocain. Voilà, alors on va parler de cette édition, on reste en Afrique pour parler du Cameroun, de l'Égypte, sans oublier le Sénégal. Justement, on a vu, c'est vrai que voilà, depuis hier soir, on sait à peu près quelle sera cette finale. Elle opposera deux coéquipiers des Reds, d'un certain Jurgen Klopp, c'est bien ça Achille. Et c'est vrai qu'on voit aussi fuser pas mal d'informations sur les réseaux sociaux, notamment que l'Égypte demande à la CAF de reporter la finale à lundi tout de même. Ouais, c'est assez fou. Ouais,
pour quelle raison ?
C'est vrai que.
Il n'y a plus qu'encore. Ils veulent du beurre, des épinards.
Ouais, parce qu'elle aimerait bénéficier d'une journée de plus, Sénégal a bénéficié de cette journée.
Le calendrier a été fait. Il n'y a pas de passe-droit pour l'Égypte. Pourquoi il y aurait des passe-droits ?
Ouais.
Pourquoi ? Parce que la fédération égyptienne se croit supérieure aux autres fédérations africaines.
Une journée de repos supplémentaire, ça fait effet, non, Achille ?
Non, mais c'est le calendrier qui a été fait comme ça, c'est tout simplement. Partant de là, ils auraient eu. Après, s'ils avaient besoin d'une journée supplémentaire, ça peut se comprendre. Néanmoins, ils ont été avantagés par rapport à leurs concurrents sur les précédentes phases de phase finale.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de raison pour laquelle aujourd'hui on devrait déplacer la rencontre. Non, c'est comme ça. Et d'ailleurs, ils peuvent faire toutes les demandes qu'ils veulent.
Ouais.
Dans tous les cas, ça ne changera pas.
Hier, Cameroun, on le rappelle, Égypte, hein, au tir au but, 3-1 pour les pharaons égyptiens. Abdel, allez, on revient.
Ça a été un match, on va dire. Dominé dans la majeure partie du temps par le Cameroun qui a eu les meilleures occasions du moins pendant 60-65 minutes. Après on a senti une baisse de régime chez les deux équipes qui ont plongé un peu physiquement. Pourquoi ? Déjà l'Égypte a fait deux prolongations plus une séance de tir au but. Avant ces tours-là, c'est vrai que le Cameroun faisait la décision un peu plus tôt dans le match, donc le fait de pousser dans les retranchements, ça a été un peu compliqué. Après voilà, on a vu une équipe égyptienne, je pense, qui a l'habitude d'arriver à ce stade de la compétition, notamment avec leurs 7 titres. Il y avait aussi un remake aussi de la finale 2017 où je pense que mentalement ça permet à l'Égypte de se conditionner et de tenir. Et après voilà, hein, il y a une stat qui ment pas. L'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations, ils ont pas perdu une séance depuis 1984. Donc à un moment donné, ils savent que c'est un de leurs points forts, que c'est quelque chose qui travaille. Je pense pas que tout le monde était conditionné pour tirer lors de cette demi-finale pour envoyer sa nation dans le match décisif. Mais voilà, c'était un match quand même assez ouvert, mais on a vu que c'était quand même assez embêtant pour les organismes, parce que on a vu qu'il y avait une compétition qui était passée par là. Après, que ce soit l'Égypte ou le Cameroun, moi j'ai pas forcément de préférence. Petite désillusion pour le Cameroun qui est à domicile, mais ils sont tombés quand même sur, je pense, un adversaire coriace et expérimenté, ce qui a, ou sur lequel ils sont un peu cassés les dents sur le tard.
Oui, Achille, justement. Intéressant, Abdel, pas mal.
Oui, c'est relativement intéressant. Après, la chose que je veux d'abord relever, c'est que c'est vrai, c'est dommage pour le Cameroun et qui ne, malheureusement, qui va pas au bout de cette compétition, qui va peut-être se battre avec contre le Burkina pour obtenir peut-être une troisième place. Donc de ce côté-là, on va voir ce que ça va donner. Mais ce que j'ai à dire, c'est que voilà, pour une fois. Là, j'aimerais bien entendre tous les détracteurs.
Alors, il y en a pas mal. Ah oui, Achille, quand même.
Voilà, c'est la FECA foot, la FECA foot, la FECA foot.
Non, c'était plus.
Et ben ouais.
C'est vrai.
Là, pour le coup, le Cameroun est éliminé. Est-ce que c'est la faute de la FECA foot? Non. En dehors de ça.
Pour ces derniers jours, voilà. Ça parlait de la CAF, surtout.
Ouais, c'est
hein. Vraiment.
La CAF, la FECA foot.
C'est plus le Cameroun.
Il y a tellement un imbroglio, tout le monde mélange tout le monde, qu'à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête. Mais ce que je veux quand même souligner.
Alors.
C'est l'attitude déplorable depuis le début de cette phase des éliminations du staff égyptien. Elle est à vomir.
Pourquoi? Alors, quand on dit staff Carlos Queiroz,
et de son staff, c'est à vomir. C'est-à-dire que comment, à un moment donné, tu t'appelles quand même Carlos Queiroz, tu as une renommée plus internationale.
L'un des sélectionneurs les mieux payés en Afrique.
Il fait partie avec Vahid Ailodic. Comment un sélectionneur de cette trempe-là se permet d'avoir cette attitude-là? Quelle image ça donne? Alors peut-être que c'est une stratégie de sa part.
Moi je pense que c'est ça, Achille.
Pour tenter de redynamiser un petit peu son équipe, qui, l'Égypte, est une équipe qui ne joue pas au football. Qui passe son temps à rester derrière, à faire un bloc, et ils attendent. Manque de peau, les équipes qui jouent contre l'Égypte ne sont pas réalistes, et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé hier face au Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun savait pertinemment que s'il n'était pas réaliste, il passera pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas été réalistes, et manque de peau, ils se sont cassés la tête sur Gabaski, qui d'ailleurs, il faut bien le souligner, sur sa petite bouteille d'eau, avait noté, et on le voit encore sur certaines images, le nom de chaque tireur et l'endroit précis où ils allaient tirer.
C'est du travail.
Là, c'est du travail.
Alisson, bonsoir, comment ça va? Alisson nous a rejoint.
On le disait exactement. Exactement, ça se prépare.
Je prends un peu l'émission en cours.
Alisson.
Et c'est vrai qu'Achille a souligné pas mal de points, notamment celui du sélectionneur égyptien. On a vu ce que ça a donné les échauffourées contre l'équipe marocaine.
Du Maroc, oui, c'est
exactement,
ça.
Exactement, c'est parti, je s'en est venu aux mains.
Ah oui, ça allait très loin, parce qu'il y a même un joueur marocain qui a été suspendu deux matchs et qui ne pourra pas jouer les matchs éliminatoires pour la Coupe du Monde.
Exactement. Moi, je pense plutôt que c'est une stratégie de déstabilisation, parce qu'on a vu qu'il y a du travail quand même du sélectionneur. Qu'une séance de tir au but, ça se prépare, ce que côté camerounais, on n'a pas du tout fait. On a l'impression que l'équipe du Cameroun était conditionnée que pour jouer les 90 minutes, mais au-delà, il n'y avait pas de préparation. Ouais. Et ça s'est vu notamment pendant les tirs au but, les tirs au but déplorables. C'est une chose que le gardien arrête, mais c'est une autre de ne pas correctement tirer un penalty. Et là où le sélectionneur égyptien est super intelligent, c'est justement qu'il a préparé cette séance de tir au but, parce qu'on sait que dans le jeu, les Égyptiens, c'est pas les plus forts. C'était la troisième prolongation consécutive, si je ne me trompe pas. Et donc voilà, on a l'impression qu'ils étaient carbo physiquement, mentalement, ils y étaient, tandis que les Camerounais étaient un peu sortis du match et s'étaient laissés fait prendre au pied, justement, par tous les à côté qui s'est passé avec le sélectionneur égyptien. Mais quant au tir au but, on a vu qu'il y a une équipe qui était préparée et l'autre non. On a vu qu'une équipe avait fait des fiches, notamment, donc là je parle de l'Égypte, exactement, et pour les indications aux gardiens, et l'autre, ça s'est pas préparé du tout. Donc voilà, c'est sur les petits détails qu'on devient champion, et là, le petit détail a fait la différence.
Ouais, pour continuer sur ce que disait Achille, c'est vrai que pour moi, Carlos Queiroz, c'était une manière de faire. Je pense qu'à un moment donné, quand tu vois que T'as un style de jeu qui, enfin entre guillemets un style de jeu, t'as une manière de faire qui marche plus sur le terrain. Tu mets toutes les la lumière sur toi, comme ça peut se faire des fois en conférence de presse. Là, je pense que ça se fait sur le terrain. Et je pense que même s'il s'est fait expulser, voilà, à un moment donné, il y a dans des matchs, il y a des étapes. Et tu sais que quand t'as passé sûrement 60 minutes ou 65 minutes à pas prendre de but, et que tu sais que, comme elle a dit Alisson, t'as déjà fait deux prolongations avant. Tu te dis que bon, là, il te reste plus qu'à tenir, même si c'est encore un peu long, et on va aller dans ce qu'on fait de mieux. Avant que t'arrives, on disait justement que l'Égypte, ils ont pas perdu au penalty pendant la CAN depuis 1984. Ça veut dire que ça date. Mais il y a aussi le fait que, comme je le répète, mais comme le Cameroun a fait la décision assez rapidement depuis le début de la CAN, je pense que là, ils ont été un peu usés physiquement assez tôt dans le match et qu'ils n'ont pas trouvé les ressources. Et puis, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé les remplaçants, au niveau
les choix des joueurs qui ont remplacé.
Alors, c'est assez large. Il y avait des noms.
Ouais. On se pose des questions sur Concessao, qu'est-ce qu'il a fait?
Pourquoi il rentre pas, par exemple,
dans voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui ouais,
en 2017, alors, il était là, récemment, il a qualifié tout le monde.
Qui joue pas au foot. Ouais, parce que moi, clairement, ça vomir.
C'est
cette équipe-là, faut le dire clairement, elle a vomir d'un point de vue footballistique. Hein. Vomir, c'est du football. C'est pas du football, c'est-à-dire attendre, tu balances le ballon devant.
La France, ils ont fait ça en 2018.
C'est un choix. Non, mais je dis pas le contraire, c'est un choix.
Et c'est un choix payant.
Mais c'est un choix payant parce
alors,
que.
Cette
derrière,
CAN, ils gagnent la majorité comme ça. Hein.
Non, mais non, mais quand même pas.
La majorité.
Quand même des joueurs de football.
Oui, Aboutrika et compagnie, mais quand même.
Mais là, pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est à vomir parce que quand t'as des joueurs de talent, quand tu vois Mohamed Salah, qui a passé quasiment 100 minutes à courir dans le vide. À pas avoir de bloc équipe qui joue beaucoup plus haut. Quand tu vois l'attitude du gardien Gabaski qui veut pas sortir, qui fait du cinéma, qui fait ceci, qui fait cela. Alors c'est de l'usure mentale,
bah oui,
probablement. Et que très probablement l'intelligence de l'Égypte et de Carlos Queiroz. C'est-à-dire qu'avoir ce déficit dans le jeu, mais compensé par l'expérience, à savoir ces petits détails-là. On va faire craquer l'adversaire psychologiquement. On va l'emmener loin. On va tirer. Et on sait qu'au pénalty, personne ne nous battra.
Achille, à contrario, on peut reprocher aussi plein de choses à l'équipe camerounaise. J'ai entendu vaguement que vous parliez de vendanger devant. La débauche d'énergie y était, mais le réalisme il n'y était pas du tout niveau camerounais. Ouais. Et en plus, c'est la première vraie confrontation face à une équipe qui de rang un peu auquel s'est confrontée l'équipe camerounaise. Oui. Parce que jusqu'à présent, le tableau leur était un peu plus favorable. Donc là, voilà. Est-ce que l'équipe camerounaise n'a pas
cédé
à la pression?
Mais l'Égypte, au tir au but, c'est un joueur, Alisson. Et c'est l'Atlético de Madrid, les colchoneros des sélections. Voilà. C'est Jason qui nous le dit.
C'est vrai que c'est pas beau, mais on te demande sur une compétition de serrer les dents pendant cette match que potentiellement ça peut te permettre de revenir sur le devant de la scène. C'est vrai que ils ont eu des heures de gloire où ils ont gagné des compétitions d'affilée l'Égypte, mais
les joueurs, le talent des joueurs, la qualité des joueurs n'était pas la même.
Justement, pour faire le parallèle avec ça, c'est vrai que en vrai, quand on regarde sur les trois dernières CAN, ils font quand même deux finales en 2017 et là celle en 2022. Donc potentiellement, c'est que ils ont trouvé la recette, et j'estime toujours que quand t'as des joueurs, t'as une ossature qui se connaît très bien, qui joue dans le même club ou qui joue aussi depuis longtemps ensemble, ça permet d'arriver peut-être en sélection et dans cette compétition avec un peu moins de préparation que ceux qui viennent de championnats européens ou autres. Mais après, voilà, c'est vrai que le Cameroun, ils sont tombés sur la première forte équipe sur lesquelles ils sont tombés. Et comme je disais, moi, pour moi, tout est mental sur le fait qu'ils avaient aussi perdu cette finale en 2017, l'Égypte et tout et tout.
Justement, je pense ça a été le match de trop pour l'Égypte. Et je pense qu'ils vont vraiment se casser la figure face au Sénégal, parce que enchaîner trois prolongations consécutives.
Deux séances de tir au but. Finale,
plus deux séances de tir au but.
Ce dimanche à 20h, heure française, Sénégal, Égypte.
Et je pense que la fraîcheur physique.
Sadio Mané face à Mohamed Salah.
va amener quelque chose et va faire sauter le verrou égyptien.
Alors, Alison, avant la pause.
J'ai tendance à aller dans ton sens, mais ce qui s'est vu, en tout cas, d'un point de vue extérieur, c'est que j'avais l'impression que les joueurs égyptiens étaient cramés physiquement, mais au moment
où ils
y étaient. Alors que, contrairement au Cameroun, physiquement, ils étaient quand même cramés, et puis c'est tout. Donc, ouais. c'est, on parle de détails, là, c'est vraiment les détails qui font la différence.
Ouais, c'est vrai.
Franchement, ouais, c'est vrai. Moi, je pense que
Alors, Abdel.
On pourrait penser que la fraîcheur physique, ça fait beaucoup de choses, mais je pense que quand t'es à 90 minutes ou 120 minutes d'aller chercher un nouveau titre et de redorer un peu le blason, on va dire, égyptien, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné de titre, je pense que ça peut faire la différence là où le Sénégal a déjà perdu deux finales, même s'ils vont tout donner pour remporter leur premier trophée.
Ouais.
Je pense qu'on peut leur souhaiter, mais je pense que ça va pas être si ouvert que ça. Moi, je pense que ils vont avoir des grosses difficultés, surtout que c'est vrai que le Sénégal monte en puissance, mais que dans le jeu c'est pas non plus fameux et qu'Alucissé est beaucoup critiqué par rapport à ça.
Alors on termine avec toi, Achille. Avant la pause, la première.
La différence, c'est que le Sénégal a des ressources sur le banc. Et quand tu te permets, contrairement au Cameroun, où Choupo-Moting est resté en réserve, entre guillemets, là, au Sénégal, il récupère Ismaïl Assar. T'as Bamba Dieng qui prend une autre dimension. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont des joueurs capables d'user la défense égyptienne pendant 70 minutes, 75 minutes, 90 minutes, et envoyer des cartouches pour vraiment faire sauter totalement le verrou. Et je doute fort que l'Égypte termine à 10, à 11 entre guillemets, cette rencontre. Je pense que ça va être beaucoup plus ouvert que.
Après, les centraux égyptiens, ça reste quand même solide. La défense, elle coulisse bien. C'est quand même solide. À l'usure, effectivement, peut-être à la 70e minute, le verrou va sauter.
Ouais.
Mais en tout cas, ça sera un beau match, un match très disputé.
En tout cas, moi, j'affiche directement Team Sénégal. Voilà.
Team Sénégal, et oui. Parce que il y a beaucoup de personnes qui s'affichent Team Sénégal.
Sadio Mané et enfin cette CAN.
Et pourquoi pas.
Et Edouard Mendy aussi.
Eh ben, on verra bien. Voilà. On verra bien. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de BFM. On va revenir avec de la Liga et le Real Madrid. À de suite.
Time Foot revient dans un instant.
Revient dans un instant.
20h, 21h, Time Foot avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM dans cette émission qui est Time Foot spécial Coupe d'Afrique des Nations. On a parlé de cette finale justement ce dimanche 20h qui opposera les Lions de la Teranga face au Pharaon d'Égypte de Mohamed Salah. On pense aussi, tout comme Achille, à un certain Sadio Mané, c'est bien ça. C'est ça. Et ben justement, on va s'attarder cette fois-ci sur le football espagnol avec le Real et le Betis. Eh ben, on a un petit problème, je crois. C'est notre réalisateur. Notre réalisateur, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il est juste là, oui, parce qu'on a le coach Tollé. Le coach Tollé, on ne sait pas. Il débarque, Vladivostok ou je sais pas encore. On va du côté de l'Espagne.
La troisième mi-temps.
Eh oui, justement. Les infos du jour aussi qu'on peut donner, c'est la mère de Mbappé qui refroidit le Real Madrid. Neymar qui revient. Eh ben ouais, Alisson. Eh ben on espère. Et on verra aussi cet Olympique de Marseille face au SCO d'Angers pour le plus grand plaisir du coach Tollé. Alors, le Bétis face au Real Madrid, non, Achille.
L'Atlético,
excusez-moi.
C'est le Bétis qui s'est qualifié face à la Real Sociedad.
Merci Abdel de me reprendre. Avec toi, Achille.
C'est surprenant. Surprenant de la part de Carlo Ancelotti qui a fait preuve d'une. Alors, pour certains, d'amateurisme. Pour d'autres, moi je dirais plutôt de la stratégie. De faire une composition d'équipe à deux joueurs près, c'est l'équipe type du Real Madrid qui a joué avec quand on voit le trio d'attaque composé de Rodrigo, Vinicius et Asensio. Et en défense centrale, tu avais Nacho, Militao avec Alaba et Vázquez. Et au milieu de terrain, le milieu de terrain qui survit, je sais pas, on fait quoi avec.
Qui est mort, mais qui
est mort, qui ressuscite.
Qui est toujours là.
Et qui est toujours là, voilà. Qui est toujours là.
Toujours là.
Kroos, Casemiro, Modric. Et en fait, on se pose tous la question, mais il y a des remplaçants au Real Madrid ou c'est toujours les mêmes joueurs qui doivent jouer?
Non. Il n'y a pas que toi qui se pose la question. Il y a aussi un certain Gareth Bale. Hein.
Voilà. Pour ne citer que lui. Après, il y a Eden Hazard aussi.
Eden.
Eden Hazard, je pense que lui, il était au McDo, je pense, avant.
Mais, Achille, quand même.
Eden Hazard, c'est plus grave, hein, parce que, entre guillemets, plus grave, parce que Vinicius, il revenait du déplacement avec le Brésil.
Voilà,
48 heures avant et.
C'est même pas 48 heures avant. Ouais, même pas. Ouais. Moins de 48 heures.
Et il s'est permis de le mettre sur le terrain plutôt qu'Hazard. Après, par rapport au match, c'est vrai que ça a été un match pour moi
assez. Bourbier.
Ouais, mais c'était assez ouvert. C'est vrai que là-bas, gagner à Bilbao, c'est vrai que c'est dur. Maintenant, il y a eu un but qui intervient dans les derniers instants. Je pense aussi à la force mentale. Il y a aussi une défaite, aussi une petite guise de revanche, parce qu'il y a eu Bilbao, Real la semaine dernière, il y a deux semaines, je crois, en Supercoupe, et le Real s'était imposé. Mais je pense que ça fait pas de mal que le Real soit titillé, et ça montre aussi que malgré la compo que tu citais, Achille, il y a vraiment un joueur qui est très important et qui est Karim Benzema, et quand il est pas là, c'est vrai que c'est assez difficile, ça change un petit peu le Real. Et concernant les trois que t'as cité, je pense que Kroos et Modric prennent de plus en plus d'âge, et je pense que à l'avenue d'échéances comme celle de Ligue des Champions, il est obligé de les faire jouer pour leur faire prendre un peu de rythme. Mais voilà,
ils étaient pas tellement en manque de rythme.
Oui, mais faut pas. En tout cas, moi, je pense qu'il faut pas prendre en conséquence, cette défaite. Je pense que voilà, c'est toujours ouvert. L'Athletic Bilbao, il se retrouve toujours là dans ces derniers carrés où c'est la compétition finale.
De Bilbao.
Oui, tout le temps.
La Coupe du Roi, super.
Achille, je reviens à ce que tu disais.
Et ils se sont tout le temps là.
Franchement, c'est intéressant. Oui, Abdel, vas-y.
Dernier mot.
Vas-y.
C'est vrai que Mounien a joué hier. C'est un joueur qui est quand même pétri de talent, même s'il a pas eu la carrière escomptée hier. J'ai trouvé pas mal du tout Mounien.
Pire match de la saison selon certains bookmakers, mais aussi supporters du Real Madrid. Même les cadres étaient à la rue, Alisson. Et Carlo Ancelotti abuse aussi, Achille, de pas faire tourner son effectif.
Bah, ouais, a priori, moi, ça, c'était la première lecture que je disais, ouais, c'est-à-dire qu'on peut critiquer Carlo Ancelotti. Mais critiquer ce mec-là, c'est quand même, faut quand même en avoir dans le pantalon. Parce que moi, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience.
Qui sait ce qu'il fait. Prouvé,
il sait ce qu'il fait. Donc moi, je pense plutôt que le Real Madrid était en fait en décrassage. Tout simplement.
En décrassage.
Ça évite de faire des séances d'entraînement assez longues et autres. Donc le coach Tolé est là, il pourra peut-être nous l'expliquer. Peut-être qu'il le fait avec ses féminines de cette manière-là.
Je pense que c'est
une stratégie.
Ouais.
J'ai pas les moyens de jouer le dé.
J'ai
pas les moyens de faire des décrassages avec ma team. Ouais.
Surtout contre Bilbao. Hein.
On est en opération commando pour le maintien, donc t'as pas le droit. C'est vrai que ça peut être étonnant, mais ça reste quand même là. Je pense pas qu'ils soient en opération décrassage. Ça peut arriver de passer à côté. Et ça montre que le match face au Paris Saint-Germain sera extrêmement équilibré. Ça va jouer vraiment à pas grand chose. Pas grand chose.
Bah, ça va jouer à pas grand chose. Ça va jouer.
Alors, Alisson,
si Benzema est là aussi.
Karim Benzema qui est revenu à l'entraînement. Donc, c'est annonce des bonnes nouvelles plutôt du côté de Madrid et peut-être de mauvaises du côté de Paris. Du coup, on a vu. Je pense que je pars sur la même théorie qu'Achille. Hein. Ça doit être une stratégie de la part de Carlo Ancelotti, alors qu'une stratégie qui s'avérait non payante. Parce que ça aurait été, on aurait pu croire un coup de génie avec ce changement de composition. Mais je pense que voilà, ça arrive de passer à côté de certains matchs. Là, il est passé à côté, d'autant plus que Bilbao, on les voit toujours en finale de la Coupe du Roi, en finale de
la Coupe. Ils sont durs à jouer chez eux à Saint-Mamès.
Très dur.
Exactement. C'est toujours des prolongations. C'est toujours un Bilbao qui marque à la 101e minute ou à la 119e minute. Voilà, c'est toujours à l'arraché contre cette équipe basque. Et voilà. Le Real est passé à côté. Ça ne veut pas dire que le Real est faible et est affaibli. C'est juste un match passé à côté.
Mais si, en plus, parce que là, c'est vrai qu'on voit d'un œil de français, entre guillemets, que ça peut être une défaite bénéfique
français,
pour
algérien, marocain.
Non, je parle d'ici en France, mais on voit le Real perdre. On se dit que ça peut être une bonne opération, mais si on compare avec le PSG, il y a pas de quoi se dire en gros que c'est bénéfique ou quoi. Mais en tout cas, le match hier, il a été intéressant, et je pense que c'est ce genre de coupe qui est pas mal à jouer, où on voit toujours des surprises. Et le but d'ailleurs, c'est vrai que d'habitude c'est des buts à l'arrache, même si c'est en fin de match. Là, c'était quand même un but plutôt beau de Berenguer là.
Ouais, justement, Achille Ancelotti, il est prêt.
Bien sûr.
Oui. C'est la question qu'on nous pose là, vraiment.
Non, moi, je pense qu'il a déjà son équipe, mais au-delà d'avoir son équipe,
il a ses plans aussi.
Ouais.
Et ses plans, La seule interrogation que moi j'ai de ce côté du Real Madrid, est-ce qu'il y aura des cas de Covid?
Oui.
Parce qu'on a souvent tendance à l'oublier. Mais est-ce qu'il y aura des cas de Covid? Parce que du côté du Paris Saint-Germain, c'est une équipe qui est tellement illisible. Lire le PSG, j'ai envie de te dire, bon courage. Je pense qu'il te faut 5, 6, 7, 8 ou 9 tomes pour pouvoir savoir comment va évoluer carrément. Le PSG. Avec quel joueur, dans quelle formation, dans quel système et autres. Et le PSG, d'un match à un autre, peut te faire une prestation digne d'Olivier Tom. Ouais. L'autre derrière de Tom et Jerry.
Franchement, il était
Tom et Jerry aussi,
justement. Olivier Hatton, il était extraordinaire. Voilà.
C'est pour dire à quel point
Thomas Price laisse tomber.
Voilà. Voilà. C'est qui Olivier Hatton au Paris Saint-Germain qui l'a
mis
c'est ça?
Peut-être. Non, c'est censé être Messi, mais. Et Marc Landard, c'est Cristiano Ronaldo.
Donc, c'est une rencontre qui, comme le dit Coach Tolé, va être assez équilibrée. Mais à mon humble avis, on aura les tenants, les aboutissants de cette confrontation au match retour.
Achille, en général, quand même, le Paris Saint-Germain, et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on ne sait pas. Chaque semaine, on se demande, mais quelle équipe, quel est le comportement, quel est l'état d'esprit. En général, le PSG répond présent depuis quand même deux saisons dans les grands rendez-vous. Et en général, il met l'équipe qui se rapproche d'une équipe quand même type. Donc, je compte sur le PSG pour répondre quand même présent sur cette confrontation.
Quel système de jeu, parce qu'il peut nous inventer un truc encore.
On ne sait pas. La forme aussi, c'est ça que la forme des joueurs. Les joueurs, on ne sait pas trop, c'est masqué, il y a de l'info.
Emma revient bien, mais c'est là.
La vraie raison,
revient bien où à l'entraînement.
Tu vois, moi, le souci qu'a Pochettino, c'est que si on parle de la forme des joueurs, est-ce que réellement il met en fonction de la forme, ou il met en fonction des noms, parce qu'on te dit,
en fonction des
là,
noms.
C'est la Coupe d'Europe. Tu vois ce que je veux dire?
Quel est le coach qu'il y a dans son équipe? Neymar, Messi, Mbappé. Et puis même s'il a 20%, tu ne peux pas jouer. T'as pas le choix.
Je suis d'accord, mais si tu mets les trois et que t'en as deux qui sont pas en forme et qui reviennent pas dans le jeu sans ballon. Face à l'équipe du standing du Real Madrid, ça peut être vite compliqué.
Ça peut être vite compliqué.
Ce que je veux dire, mais
aïe.
On te coupe la tête si tu les mets pas.
Bah, mais bon, c'est ça le problème de Football Manager.
C'est ça.
La réelle.
Ouais. Alisson, tu en penses quoi toi aussi? Ah oui, avec ça. Désolé, Abdel.
J'ai pris de cours.
Ouais, j'ai pris de cours. Justement, on va prendre de cours, Abdel. Alors, à l'approche de ce match-là, huitième de finale. Allez, excusez-moi.
Comme moi, je pense que c'est encore vraiment, c'est trop tôt. Même là, c'est dans 10 jours. Je pense que c'est encore trop tôt pour ça. Ça se rapproche, mais il peut avoir d'autres éléments qui, comme tu parles du Covid, mais ça peut être plein d'autres choses. La forme du moment, comment Pochettino peut inventer un truc aussi. Si jamais il se voit jouer à 3, on sait pas. Bref, il y a plein de choses qui peuvent nous prendre à contre-pied. Et en fait, c'est impossible de juger par rapport au championnat ce qui se passe, ou même aux coupes. Tu peux pas dire que là en Coupe de France ils ont joué comme ça Paris et que là l'autre coupe
c'est un très bon message, parce que tu le soulignes bien.
J'espère que Chamis Simone va jouer.
Eh ben, le Real a perdu, mais on en fait pas tout un plat. Le PSG a perdu face à Nice. Waouh,
éliminé.
Voilà.
Éliminé.
On sait pas trop.
En plus, les deux en coupe.
Deux poids, deux mesures. Donc le PSG bashing,
tu sais quand même ça se fait régulièrement. Après bon,
on connaît, mais
c'est rare qu'on soutienne entre guillemets le PSG.
C'est une équipe française.
Non mais c'est vrai. Après en l'état des choses, effectivement, si on fait un constat à froid et au moment où l'on parle, on sent un peu le Real supérieur. Mais sauf que on le sait très bien. On sait que le Paris Saint-Germain est capable de sortir un match extraordinaire. On sait que le Paris Saint-Germain est capable de rendre une copie propre, en tout cas en Ligue des Champions. Donc effectivement, là, à l'instant où on parle, dire que le Paris Saint-Germain est largement supérieur, ou alors à contrario, le Real est largement supérieur, c'est très 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 difficile de se prononcer. Très difficile.
Le coach Tolé, justement, on a un peu cette empreinte.
On a un peu
Tu la sens comment?
Le Real a été quand même plutôt solide, une certaine constance, et on le disait, il a quand même... redonner une seconde jeunesse, une seconde vie à ce trio au milieu de terrain qu'on pensait. Ils ont quand même cette capacité d'être présent. Alors que le PSG, tu te poses pas mal de questions, même des fois pour moi trop de questions. Dans 10 jours, il y a beaucoup de points d'interrogation quand même
Je vais quand même me mouiller ce soir, parce que c'est vendredi soir, pourquoi pas.
Ouais, vas-y,
on allait en boîte.
C'est permis.
J'ai l'impression que le Real Madrid Et sur une phase descendante.
Ouh. Ah oui.
Ah ben moi c'est
contrairement au PSG. Non mais moi je suis bien. Contrairement au PSG
qui monte en puissance.
Qui monte en puissance.
Non, non.
Aïe 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 aïe. Ils sont pas d'accord.
C'est plutôt l'inverse.
En
fait, c'est pas l'inverse. Moi, c'était Carlo Ancelotti quand il est revenu au Real Madrid. J'avais un peu de mal à lire un peu ce qu'il allait faire avec le groupe. Et justement, en regardant les matchs, c'était de plus en plus cohérent. Après, on va dire que les clubs comme le Real et tout, on les attend vraiment à leur top dans cette période-là. Mais il peut avoir toujours un peu le contre-coup d'avoir encaissé le retour du coach.
Mais ça s'équilibre. Moi, c'était vachement centralisé sur la défense et sur le milieu. Et maintenant, on a enfin Vinicius, l'éternel espoir qui a enfin éclos, qui marque des buts, qui finit un peu mieux devant le but. Donc pour le coup, il est un soutien de Karim Benzema.
Je suis d'accord avec vous.
Cette saison, il est extraordinaire.
En même temps, quand vous regardez.
De l'autre côté, on a Léo Messi, on ne sait pas s'il est là, on ne sait pas s'il est là.
À un moment donné, quand vous regardez les matchs du PSG, il faut dire les choses telles quelles.
Neymar,
il est revenu à l'entraînement. Il a dribblé un mannequin et il a tiré dans le petit but.
J'ai sentiment qu'il n'a pas débuté sa saison.
Mais justement, si vous remarquez, le PSG joue face à des équipes qui jouent à 10 derrière, comme l'Égypte. Il joue à 10 derrière, il ne bouge pas. Bloc. Ça balance le ballon, une attaque. Et avec un peu de chance, tu as un joueur qui a un petit peu de lucidité, pouf, ça marque.
Pourquoi tu t'adaptes pas, on n'a jamais eu de capacité d'adaptation du coach.
C'est le PSG qui arrive quand même à trouver des solutions. T'as des éclairs de génie de Kylian Mbappé qui arrive à trouver cette petite solution sur des petits scores de 1-0
et 2-1
ou 2-1
souvent mené au score,
ça revient. Le Real Madrid aussi,
derniers instants.
La seule différence, c'est que le PSG, quand ils ont une équipe qui joue au foot face à eux, ils leur font très mal.
Mais alors on a aussi qui nous appelle justement pour parler de ce PSG Real Madrid. Il a composé le 01 53 48 3000. Bonsoir Ossine.
Bonsoir tout le monde, bonsoir
à
tous les... Eh bien écoutez, ça va très bien, je suis très content d'être avec vous ce soir. Et puis oui, je voulais faire un petit peu mon analyse au niveau du sport, au niveau du foot, au niveau de la composition et au niveau des équipes du Real Madrid et du Paris Saint-Germain. Effectivement, comme vous le dites aussi bien sur le plateau, c'est deux équipes qui se valent. Et pour le Paris Saint-Germain, c'est l'année ou jamais. Je pense qu'ils ont quelque chose à jouer.
Ouais.
Je pense qu'ils ont le potentiel pour la remporter cette année.
Ouais.
Mais maintenant, il ne faut pas qu'ils fassent d'erreur. C'est-à-dire, je m'explique.
Alors.
Il ne faut pas qu'ils fassent d'erreur défensive par rapport à Kimpembe et par rapport à Marquinhos. Marquinhos et Kimpembe, il faut vraiment qu'ils gèrent la défense parce que c'est là où tout va se jouer. Parce que comme vous le dites si bien, la contre-attaque, elle est puissante au niveau du Paris Saint-Germain. Mais après, on a un gros Real Madrid en face de nous et vous savez que c'est des grosses équipes. Et à ce stade de la compétition, l'erreur est fatale. Et c'est l'erreur de trop qui va faire soit passer le Real Madrid, soit le Paris Saint-Germain. En tout cas, je souhaite de tout cœur que le Paris Saint-Germain fasse un gros match contre le Real et que le meilleur gagne. Quoi.
Je ferais bien Verdo à Ossine.
Ouais, mais.
Il a rééquilibré son avis.
Non, mais Ossine, il est pas mal. Il est, je crois, au stade de l'Odrome, là. C'est pour ça.
Non, mais Ossine, au stade. Il a raison quand il disait c'est l'erreur. Mais l'erreur, elle peut être d'un côté comme de l'autre. Justement, Achille disait que c'est dommage que les équipes jouent en bloc bas face au Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce que tu veux, Achille? Tu veux que la défense se découvre et que Kylian Mbappé aille faire un sprint de 100 mètres? Ben non. Parce que c'est ça la force du Paris Saint-Germain. Donc il faut contrer ce Paris Saint-Germain. Il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. Donc forcément, contre Paris, c'est bloc bas. Parce qu'il ne faut pas laisser trop d'espace entre le gardien et la défense.
Mais
forcément,
c'est bien en plus.
Non, mais je prêche un convaincu, il le sait très bien. Mais il faut qu'il l'entende quand même.
Mais c'est vrai que des fois, tu entends, ouais, ils ont mis le bus et tout, mais j'ai une équipe du PSG en face de moi.
Tu
es obligé de jouer en bloc bas.
Tu viens prendre ton point, jouer les coups de pied arrêtés.
Bien sûr. Il va faire une passe en profondeur à qui Kylian Mbappé, il va y aller tout droit.
Même en marchant, il fait la passe D.
Mais ce qui est plus surprenant, non, en vrai, non, c'est que Achille, il a raison. C'est vrai qu'on aimerait bien que toutes les équipes jouent, mais au final, quand tu sais que 90% des équipes elles vont jouer comme ça contre toi, quelle est l'importance du coach à ce moment-là de savoir ce qu'il faut faire pour déjouer un peu les plans. En fait, à partir du moment aussi où bon, il y a les trois stars devant, ça c'est pas un sou, c'est
Mbappé, s'il ne fait pas de dingue.
Non mais attends, c'est pas un sou,
mais moi j'avais dit 7 matchs pour un mousse.
Sur ce qui dit, sur ce qui Achille, il dit que là le PSG doit avoir le ballon, etc. Mais là, on peut parler de si Verratti est pas là, il y a pas de création, c'est pas Herrera ni Paredes ni Danilo qui vont faire le jeu. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, tu te poses la question sur à quoi sert le coach, juste à part si c'est s'asseoir sur le banc et fermer sa bouche, s'il n'arrive pas à trouver des solutions face à la difficulté. Et les détails, c'est le plus important dans les compétitions, comme il l'a dit aussi. Et on peut pas se prononcer encore, comme je le dis.
Ah ben justement, peut-être aussi, il est du côté de l'Orange Vélodrome. Il va se prononcer sur un pronostic face à l'Olympique de Marseille, jusqu'au danger. Allez, selon vous aussi.
Allez, on va dire match nul 1-1. Moi, je pense qu'il va y avoir 1-1 parce que le SCO d'Angers, c'est une équipe de milieu de tableau. Ils ont des gros gaillards et physiquement, ils sont là, ils sont imposants. Et je pense que, ouais, il va y avoir match nul. Hein. Et c'est malheureux pour l'OM, hein, parce qu'à chaque fois, ils se font avoir au moment opportun, eh ben, ils gagnent pas. Ça me dérange, ça. Et juste pour revenir pour le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, je pense que Kylian Mbappé, il faut qu'il monte en puissance, quoi. Ça va partir de lui.
Ouais.
Ça va
partir de lui, je pense. Donc, il faut qu'il montre.
Ouais, aussi. Le coach étonné, peut-être. Avant de partir sur l'Olympique de Marseille, c'est le dernier sujet avec Achille.
Sur le
ouais.
fait.
On laisse terminer. Oh,
il est déjà monté en puissance.
On laisse filer aussi.
S'il n'est pas monté en puissance, là, Kylian Mbappé, ben, en fait, je me demande jusqu'où il va monter. En fait.
Bah, c'est le seul qui est très bon depuis le début.
Qui est au niveau. Il est excellent même.
Ah bah oui.
Mais heureusement qu'il est là.
Hein. Ouais. Oui, il faudrait voir combien de points il a rapporté depuis.
Heureusement qu'il est là. Il est dans un PSG où Messi, bon.
Bah, il y a une Mbappé dépendance, il y a une Benzema dépendance, tout le monde est dépendant de quelqu'un, il faut bien, et puis voilà. Maintenant, on s'attendait peut-être à voir Messi, c'est Messi de Carrefour que tu vois.
C'est un flop, faut le dire au bout d'un moment, non mais il faut dire les mots.
Mais ouais, Alison.
C'est un flop. Messi est un flop au Paris Saint-Germain, faut le dire. Faut pas avoir peur des mots.
Ouais,
c'est pas sorti de ma bouche.
C'est pas trop tôt.
C'est pas sorti de ma bouche.
Quand même. Hein, ça, c'est fou. Ouais,
c'est pas sorti de ma bouche.
C'est vrai qu'il y a une réalité. Alors, c'est vrai que ce qui est quand même compliqué, c'est que le gars, il arrive au bout de 20 ans, bim, quelques jours, t'es transféré au PSG. Il y a une histoire d'environnement. Enfin, ça reste comme un être humain. Il n'y a pas de souci. Mais la réalité, c'est qu'il y a un moment, ça fait quand même 4-5 mois. On va pas toujours se cacher derrière. Moi, j'ai entendu tellement d'excuses de la part de beaucoup de monde concernant Messi.
Ouais,
quand c'est un joueur moyen, on n'hésite pas à le défoncer. Donc,
cette ballon d'or, quand même.
On est quand même en droit de se dire que, avec un but en Ligue 1, avec une influence quasiment inexistante, moi, j'ai vu contre Nice. Il avait le niveau d'un joueur de Ligue 2 à peine. Sincèrement.
Qu'on ne dise pas le contraire.
Alors.
Il y a aucun problème.
Mais je pense que, il y a un vrai déficit. Je vais aller dans ton sens, mais j'irai même encore plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un déficit de jugement du niveau de la Ligue 1. On critique tellement la Ligue 1. La France, c'est nul, ça gagne rien, ça fait ceci, ça fait cela. Tout le monde dit ça. Par contre, tous les acteurs du football qui ont joué dans tous les plus grands championnats du monde entier... Ils le disent,
costaud.
La Ligue 1, c'est un championnat extrêmement compliqué, très physique, pas d'espace et autres.
Non mais Achille, je suis d'accord avec toi, mais toute proportion gardée, Messi, il arrive au Paris Saint-Germain, il n'arrive pas à Auxerre, ou il n'arrive pas à Montpellier, il n'arrive pas à Bordeaux.
Mais je
donc
dis
il
pas
est
contraire,
quand même dans
mais
un collectif ouais, bien huilé, c'est quand même un joueur qui a besoin
huilé,
certes
d'adaptation. Il a mis que
on a dévié. Hein.
Même Jiménez, l'attaquant à l'époque de l'OM,
Jiménez,
il est même
il y a un moment où...
Attention, c'est Messi en Ligue 1, Messi en Ligue des Champions, c'est pas la même.
Alors... Sur ce point de vue,
on a fini avec le Real Madrid, on s'est attardé un peu sur le Paris Saint-Germain.
Je pense que ce que grand plaisir du Rachid, en fait, à force d'empiler les superstars, t'attends toujours qu'ils viennent te donner le titre fatidique. Mais pour moi, je pense qu'à un moment donné, si tu veux être bon en Ligue des Champions, même si c'est ta compétition, il faut un minimum d'automatisme, un minimum de rythme et de petites choses comme ça en Ligue 1 pour monter en puissance. Tu montes pas en puissance.
D'accord. Dans ce cas-là, on critique plus personne. On critique plus aucun joueur. Moi, je veux bien.
Moi, il est critique. Moi, il est critiquable. Je sais.
Toi, mais
il est critiquable.
On critique plus
personne. Il y a sans souci, mais je pense que en fait, du point de vue surtout supporter, eux, ils sont un peu moins durs parce qu'ils attendent au moins à la fin de la saison
non,
pour voir jusqu'où.
Lionel Messi. Et mais une autre recrue qui te fait le début de Lionel Messi, à... elle se fait tuer. Non, soyons objectifs ouais, quand même.
T'as des connaisseurs qui sont quand même déçus.
Messi, c'est un flop. Ramos, c'est un flop. Au bout d'un moment, quand on dit ça, flop et flop. Voilà.
Ouais.
Recrutement, flop. Voilà, merci beaucoup.
À part Hakimi. Alors, la dernière rubrique de l'émission.
On sait tous l'amour que j'ai pour ce joueur-là, Lionel Messi.
Mais moi, je l'adore.
J'ai un amour à
son avis. C'est même décevant.
Non, mais
c'est même décevant, mon avis, le coach.
Mais pour être honnête, je pense qu'il a sous-estimé la Ligue. Il pensait que c'était l'Espagne.
Ça se voit.
Archer autre.
T'as pas envie de mettre du rythme.
Ben, au PSG, mon pote, ben, il va falloir mettre le bloc off. Parce que c'est bien facile. Et comme tu le dis, face à Nice, il a éliminé des joueurs. Il en élimine un. Mais quand il en élimine un, il y en a deux autres qui arrivent. Ouais,
c'est ça
la différence.
Là où je te rejoins, Achille, c'est que défensivement, la Ligue 1 est peut-être l'un des meilleurs championnats du monde.
C'est ça.
Nos meilleurs joueurs en général, milieu défensif, défenseurs centraux, partent dans les plus grands clubs si on regarde.
C'est ça. Et tu ne prends pas en compte qui est ton adversaire aussi. Les gens, ils vont attaquer.
Et un défenseur, un bon défenseur de Ligue 1, il ne se peut pas passer comme ça. Et là, je te rejoins là-dessus. Ce n'est pas les mêmes blocs que tu retrouves en Espagne. Et quand tu marches en Ligue 1, ce n'est pas comme quand tu marches en Espagne. Et là, ça ne suffit plus.
Encore une fois, l'envie lui manque. Il est là pour jouer clairement la Ligue des Champions, Lionel Messi. Qu'on se le dise, en Ligue 1, il ne monte rien parce qu'il n'a pas envie de montrer quelque chose. Qu'on se le dise aussi. Qu'on mette les mots au bout d'un moment.
Il choisit.
Il choisit ses matchs et il n'a pas plus envie. On voit que Lionel Messi marche. Alors, il c'est quand même un génie du ballon, Lionel Messi. Il voit très bien que c'est plus physique et que ça défend plus en France qu'en Espagne. Pourquoi il ne trottine pas un peu plus? Parce qu'il n'a pas envie. Pourquoi, quand il élimine un joueur, il lâche pas son ballon? Parce qu'il n'a pas envie. Parce que
dans après, est-ce qu'il a les Alors, moi, je ne vais, pas prendre sa défense, mais est-ce qu'il a des solutions autour de lui qui fait que aujourd'hui Lionel Messi, et personne ne le dit et le remarque, à un moment donné, le PSG, c'est ni Kylian Mbappé, c'est ni Lionel Messi, c'est Neymar. Et il faut le reconnaître, à chaque fois que le PSG rencontre... Non, mais justement, remarquez bien, dès lors que Neymar n'est pas présent, le PSG joue mal, le PSG ne gagne pas.
Ouais, mais
et c'est systématiquement...
Depuis que Messi est là, Neymar, il s'est beaucoup, il s'est restreint dans son jeu. Le seul problème, c'est que le PSG rencontre des difficultés à ce niveau-là. Ne pas être bon, c'est un fait, mais pour moi, le fait que Messi soit revenu, ça change complètement son style de jeu. Et là où la caractéristique forte de Mbappé, c'est qu'il en a rien à cirer d'avec qui il joue. Il peut jouer avec un joueur d'Auxerre, comme c'est cité, ou un joueur de Rennes. Il va avoir la même performance et le même rendement. Donc voilà, mais je pense que Messi c'est un peu compliqué. Et aussi je pense qu'il a des solutions, mais il pense aussi que c'est aussi la facilité comme en Espagne. Tu vas éliminer gauche droite. Les mecs, excuse-moi. Ils s'en fichent de qui, que tu sois Messi ou quoi. Les mecs, ils veulent te charcler. Ils ont pas envie de se prendre un petit pont, un crochet. C'est vrai que le degré de motivation augmente.
Bien sûr. Non, mais pour aller dans ton sens,
je joue contre les meilleurs.
Le fait que tu es Messi et tu es Neymar aussi sur le terrain.
Ouais.
C'est-à-dire que Messi redescend. Là, à l'heure actuelle, il redescend très bas. Il part de beaucoup plus loin. Et quand tu dois défendre à la fois sur Messi, à la fois avoir un œil sur le TGV Mbappé et avoir Neymar qui sur un coup ou alors il va chercher à 30 fous.
Mais pour l'instant, la triplette, on l'a pas vu comme ça.
Ce que tu dis, on l'a pas vu cette saison, Achille.
On a vu les trois noms, mais on les a pas vus combiner plus que ça. Oui, c'est très léger.
Là, ce que tu dis, c'est ce qu'on aurait aimé voir avec l'arrivée de Lionel Messi. Sauf que pour l'instant, on ne l'a pas vu. C'est pour ça que je parlais et j'insistais sur l'influence dans le jeu. C'est-à-dire pas forcément le Messi qu'on voit, mais pas forcément éliminé, aller dribbler. C'est-à-dire juste l'influence, passer le ballon, se déplacer, lâcher et aller trouver justement
un
Neymar. Lui va percuter, aller trouver dans la profondeur Mbappé qui lui va à 100 km/h. Pour l'instant, on les a pas trop vus ces phases de jeu.
Oui.
J'attends de voir le trophée. Alors on en est encore loin, mais le trophée des meilleurs joueurs de Ligue 1. Oh. J'attends de voir comment.
C'est loin.
Le
Ballon d'Or. Hein.
Que Mbappé, il y a aucun problème, mais
alors.
Est-ce que non, mais ce serait quand même assez
valorique. On a pas mal parlé du Paris Saint-Germain, de cette Coupe d'Afrique des Nations. On le rappelle, la finale qui aura lieu dimanche 20h, qui opposera le Sénégal face à l'Égypte.
Moi, je pense que le coach Tolley, il a sa préférence, comme ouais.
On va voir, on aura le pronostic de tout le monde.
Il a la même coiffure qu'Alexis.
On aura le pronostic de tout le monde, Achille, ne t'inquiète pas. Allez, le dernier sujet de cette émission.
Time Sport, le mode pressing.
Eh oui, les compos officielles, justement, elles viennent de tomber. Hein, ça fait un petit moment. Abdel peut-être va nous la donner. Peut-être d'Angers, ou même on va laisser au coach Tolley celle de Marseille.
Bah, du coup, celle d'Angers, dans les buts Petkovic, en défense Manso, Traoré, Mendy. Au milieu de terrain, Cabo, Bentaled, Mangani, Doumbia. Et devant, Unai qui est revenu de la CAN avec Bouffal aussi qui est titulaire et Fulgini.
Eh oui, l'Olympique de Marseille, le coach Tolley.
Marseille, changement d'animation. Alors. Donc, Lopez dans les buts, Lirola, Saliba, Balerdi qui fait sa rentrée. Donc, il y a Tatcher sur le banc. Et Kolasinac, la nouvelle recrue bosniaque là, qui remplace Juan Perez. Milieu de terrain, Camara, Guendouzi, Gerson qui fait sa rentrée.
Ah, il revient.
Et changement d'animation, Payet derrière, Bakambu et Milik à la pointe de l'attaque.
C'est le compte de la 23e journée du championnat de Ligue 1 Uber Eats. Oui, allez, sonnez Achille.
Il a un problème là.
Il a quoi avec
Sampaoli, il a quoi avec Steve Mandanda? Concrètement, en fait, là, moi, faut qu'on m'explique.
Personnel.
Parce que non, c'est plus un choix.
C'est plus un choix. Ah bah oui, sur la
tu joues, mais il y a même pas 48 heures. Et là, tu fais, c'est pas, on n'a pas dit, excuse-moi du terme, c'est pas, on n'a pas dit c'est le boucher du quartier. Ouais. On parle de Steve Mandanda. Ouais, non, le mec qui a le plus de sélections.
C'est un chiffre que depuis le début, c'est vrai qu'en plus, il était plutôt bon.
Non, mais il est bon.
Et dès que Paul Lopez est revenu, il avait fait sa préparation, il a installé terminé. Non,
je veux bien. Ouais. Mais là, on est quand même, il y a un enchaînement de rencontres. C'est pas comme si Steve Mandanda ne connaissait pas le club, ne connaissait pas les défenseurs. À un moment donné, est-ce que Sampaoli veut systématiquement que son gardien devienne un libéro?
Oui, bah oui, je crois que c'est ça joue. Hein,
c'est Mandanda, mais Mandanda, il est bon.
Ah, c'est pas sa qualité forte, tu sais.
Mais Mandanda quand même.
C'est plus choquant de pas l'avoir vu jouer en coupe contre Montpellier plutôt que les deux matchs. Les deux matchs là qui se suivent. Après, c'est vrai que je pense que le fait que t'es un coach qui a envie d'avoir un joueur supplémentaire plutôt bon balle au pied, ça joue dans l'animation, surtout quand on voit un peu là ce qu'il a dit Claude au terme de l'animation. C'est vrai que ça change, mais au final, si t'as le goal qui vient s'intercaler là, ça te fait monter quand même les pistons comme il le fait tout le temps. Mais moi, j'ai hâte de voir un petit peu Kolasinac, parce que je pense que c'est un bon profil, et il y a Gerson qui montait en puissance avant sa blessure. Je pense que, même si moi je l'ai mis dans les flops dans la première partie de saison, je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter pas mal de choses face à Angers.
Déjà, comment tu définirais le style de l'OM?
Moi personnellement, je trouve que c'est pas ce qu'on souhaiterait leur attribuer. C'est pas une équipe qui devrait garder le ballon. Je pense qu'ils devraient être beaucoup plus dans la transition. Rien que ça se voit juste par rapport aux chiffres. On les a vus comme une équipe tout terrain. Quand on voit qu'ils prennent pas du tout de but, etc., je pense que ils s'appuient sur la solidité défensive et plus d'éclairs de génie de la part de Under ou même de Payet, voire Milik.
Ouais, ils ont une grosse capacité de conservation, comme tu le vois.
Mais c'est un peu stérile.
Alors, ce qu'ils font par moment, c'est du très très haut niveau, mais à un moment, il faut qu'ils soient capables quand même.
Il faut être tueur, dans les 20 mètres là. C'est redondant.
C'est du handball des équipes de Sampaoli et de Bielsa. C'est le problème, c'est qu'à un moment donné.
Mais pour moi, ils sont pas comparables.
Bielsa avait comme une vraie projection quand même. Tu sais, vers l'avant.
À un moment donné, ils ont le physique qui pète. Au bout de 75 minutes, ça pète.
Ah, ils sont solides quand même.
Non mais quand je dis ça pète, c'est la petite saute de concentration.
Ouais,
c'est
mais
parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts intensifs. Ça monte. Et
c'est vrai que quand tu vois le match contre Lyon, je sais pas si vous l'avez vu, la première période, il y a clairement même pas photo. Et tu
dis, ils doivent avoir 2-3-0.
Quand ils sont pas capables de tuer le match. À un moment, on voit un 0 Under qui est. Il a une solution, il a choisi individuel, il a deux solutions. S'il y a 2-0 à ce moment-là, c'est terminé. Il marque pas et derrière, tu te fais punir parce que beaucoup de débouches d'énergie, beaucoup de mouvements, très peu d'occasions. Tu tues pas assez tes matchs. Et à un moment, face à des équipes comme Lyon avec des joueurs de qualité, tu payes cash.
Mais c'est pour ça que
Angers, il y a beaucoup de joueurs de qualité.
L'apport de Cédric Bakambu, vous, même si effectivement
on sent le cœur parle.
Tu vois où je vais venir ou pas?
Oui, c'est ça.
Est-ce que tu vois où je vais
venir? Cédric.
Non, mais Cédric Bakambu, effectivement, c'est un joueur qui a été très critiqué de par ses choix sportifs, notamment de l'Espagne quand il est parti.
Oui, en Chine, de Villarreal en Chine.
Ouais. Exactement. Et mais dans le jeu, alors c'est pas le joueur le plus extraordinaire qu'on connaît, c'est pas le joueur le plus magnifique, mais en tout cas, c'est un joueur qui a énormément d'acuité et surtout devant le but. Cédric Bakambu, c'est un joueur qui marque quand même.
Il sent bien les coups. Hein.
Vous avez compté, c'est bien fait, Haché.
Il a le sens du but.
Et tu sais quoi, moi je suis impatient de voir comment Sampoli va gérer le secteur offensif. Milic, mais aussi
on en avait parlé, ça avec Mourad.
Quand Bamba Dieng va revenir, Dieng, il a un profil un peu qui se rapproche de Bakambu, très explosif.
Exactement.
Et ça peut être vraiment des alternatives très intéressantes.
Je suis contente qu'il revienne et qu'il se relance, surtout de cette manière, parce que voilà, on a besoin de lui en équipe nationale, même si effectivement devant ça fait le travail chez les Léopards de la RDC. On a besoin de qualité, on a besoin de joueurs qui jouent en Europe, on a besoin de joueurs qui ont du rythme, qui ont une discipline sportive et éthique. Et là, il y a une grande échéance qui va arriver, donc les éliminatoires, enfin
la phase, mondial 2022.
Pour le mondial 2022,
la RDC face à qui déjà,
disons, rappelle-moi,
au Maroc.
Au Maroc, une équipe très difficile à manœuvrer. Et voilà, je suis contente que devant on retrouve un joueur potentiellement comme Cédric Bakambu.
Moi, je pense que
est d'accord avec toi, Jason.
Ce soir, tu vas avoir du grand n'importe quoi.
Ouais.
Parce que Milik, Bakambu, Payet. Je me pose la question.
Quand ça peut du grand n'importe quoi.
Il dit. Ça va jouer comment?
D'accord avec ça.
Ça peut jouer en losange, ça peut jouer en 4-3-3.
Et je me pose la question. Et surtout que, en face, c'est pas des pitres.
C'est
pas des peintres.
C'est une équipe à retenir. Même Yacine le dit.
Une vraie équipe. Je reviens sur juste deux choses qu'on avançait à Chile et Claude. C'est vrai que quand tu l'es, Marseille laisse souvent la possibilité à l'équipe de revenir et mentalement, quand t'as plus, mentalement et physiquement, quand t'as plus les capacités à répéter les efforts, comme il dit Achille, que le fusible, il pète pour les joueurs. Finalement, les autres qui sont gardés un petit peu de jus, etc., ils arrivent à placer des coups après par rapport à Angers. C'est vrai qu'ils avaient fait un gros début de saison.
Ouais.
Gérald Batic, il est très bien arrivé avec un effectif assez jeune et quelques cadres qui sont là depuis longtemps au SCO. Et je pense qu'il a trouvé l'équilibre que là, ils sont 12e, mais je trouve qu'ils sont à leur place, et que,
C'est dur à jouer
et c'est des équipes techniques. Ça avec lui, ça a changé. C'est plus costaud ou la bagarre comme avec Moulin.
Ouais.
Ça joue au ballon. Il y a des
vrai,
très très bons profils.
Si bien,
et c'est une équipe Angers, plaisante à voir.
Mais si jamais Angers
joue
avec un bloc
avant la fin de l'émission,
je pense qu'ils vont faire très 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 mal à l'Olympique de Marseille.
Alors justement, Najib qui nous écoute et qui nous dit, oui, Marseille, je ne suis pas trop sûr de leur victoire ce soir, et Angers c'est costaud. Ils ont joué en début de semaine et sont aussi peut-être fatigués, le coach Tolé.
Oui, mais t'as Bakambu qui a pas joué, t'as Gerson qui a pas joué,
Kolasinac,
t'as le Bosniak qui a pas joué, t'as quelques joueurs qui ont pas joué.
Balerdi aussi.
Donc, bon, ils vont vous fatiguer.
Ouais.
Et puis l'animation est différente.
Ils vont vous fatiguer.
Vous allez voir Boufal, il a pas gagné la CAN.
Quand tu vois
que Unai et Boufal, ils viennent de revenir de la CAN et qu'il les met directement titulaire, il est pas là pour rigoler, il est là pour faire un coup clairement.
Ah ouais.
Je pense.
Mais vu que t'as battu.